Radio Okapi.
Gisèle Cage à la présentation. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le titre du journal. Opération Dobo contre les bandits urbains à Kinshasa. Plus de 270 condamnés sur le 2500 interpellés en l'espace d'un mois. Le gouvernement se propose d'étendre cette opération à d'autres grandes villes du pays, annonce faite à Radio Okapi par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Encore des victimes de rebelles ADF dans la province de l'Ituri. 12 corps sans vie ont été découverts le week-end dernier dans le sud du territoire d'Irumu. Les activistes de droits de l'homme plaident pour l'intensification des opérations militaires contre les ADF. 60 ans déjà depuis que le centre pour handicapés physiques Chirika La Umoja de Goma est au service de la population. L'administrateur de ce centre, Sylvain Siahava, nous parle des services offerts par cette œuvre du diocèse de Goma. Il est notre invité. C'est tout pour les titres. Je le disais dans le titre, au moins 276 bandits urbains ont été condamnés devant les cours et tribunaux sur 2500 interpellés en l'espace d'un mois dans le cadre de l'opération Dobo à Kinshasa. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a livré ce chiffre ce mardi dans un entretien accordé à Radio Okapi. Il a également précisé que 127 personnes ont été transférées aux prisons de haute sécurité sans 49 sont en transit à la prison centrale de Makala. Jacquemain Chabani le dit au micro de Blaise Ndongala.
Nous sommes en phase d'évaluation de cette première étape pour nous permettre de nous rassurer d'abord de tout ce qui a déjà été fait et d'accentuer pour sécuriser davantage la ville de Kinshasa et nos populations. D'autres ont été relaxés parce qu'il n'y avait pas de charge qui les concernait après leur arrestation. Ils se sont sûrement trouvés malheureusement dans le mauvais milieu où la police était en train d'opérer face au banditisme urbain. Je crois que notre police fait un effort significatif. Nous-mêmes, au niveau du ministère, nous sommes en pleine opération de renforcement de notre police. Parce que c'est une police aussi qui a besoin d'être renforcée en termes de moyens opérationnels, mobilité, matériel de travail, mais aussi formation. Là, je peux rassurer nos populations qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait pour permettre à ce que la République démocratique du Congo soit dotée d'une police mieux qualifiée, mieux encadrée. Et nous allons très bientôt, ici au courant de l'année 2025, lancer des grandes opérations de recrutement.
Jacquemain Chabani assure également que le gouvernement envisage d'étendre l'opération Dobo à d'autres grandes villes du pays telles que Matadi, Kikwit, Goma, Lubumbashi, Mbandaka et d'autres encore. Le ministre d'État en charge de la justice a salué lundi la mesure sur la levée du moratoire de la peine de mort en RDC lors du briefing de presse tenu avec son collègue de la communication et médias à Kinshasa, Consta Mutamba, estime que cette mesure est nécessaire dans un pays en proie aux bandits urbains, aux agresseurs et détourneurs de deniers publics. Les explications de Blaise Ndongala Mayanda.
Devant les journalistes de plusieurs médias, le ministre d'État, ministre de la Justice, n'a pas caché sa satisfaction de voir le pays exécuter la peine de mort pour décourager tout ce qui entrave la vie des Congolaises et Congolais. Il est d'avis que la RDC n'a pas droit de tout copier de l'Occident au risque de s'engager au débat stérile alors qu'il a grandement besoin de garantir le minimum possible à ses citoyens. Constant Mutamba.
On ne supprime pas, on n'abolit pas la peine de mort pour faire plaisir aux ONG des droits de l'homme. Mais c'est plutôt pour répondre aux impératifs de sécurité du pays. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir garantir le minimum de sécurité possible à ses citoyens.
Pour le ministre d'État, ministre de la Justice, la levée du moratoire sur la peine de mort ne constitue aucunement un recul des droits de l'homme à travers le pays. Constant Mutamba a cité certains pays de l'Occident reconnus dans la défense des droits de l'homme, mais qui appliquent la peine de mort à l'instar des États-Unis d'Amérique.
Aux États-Unis d'Amérique, jusqu'aujourd'hui, on exécute la peine de mort. Dans plusieurs États fédérés. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas droit de l'homme aux États-Unis?
Le ministre de la Justice a par ailleurs balayé du revers de la main la rumeur selon laquelle il aurait envoyé une vague d'inciviques dans d'autres provinces du pays pour qu'ils soient exécutés.
Pendant ces temps, la Fondation Bill Clinton pour la paix plaide pour l'amélioration des conditions de travail des agents pénitentiaires. Elle demande également à l'État congolais d'installer une cabine téléphonique à la prison centrale de Makala. Cela permettrait aux détenus de rester en contact avec leurs familles qui leur apportent de la nourriture. Selon cette ONG, 80% des détenus ne mangent pas la nourriture de la prison car elle est mal préparée. Écoutons les explications d'Emmanuel Adou Collet, président de cette ONG de droit de l'homme au micro de Jeff Ngoy.
Beaucoup de personnels sont mécontents pour une nouvelle décision qui est prise par le nouveau directeur. Demain, ils sont en discussion pour que cette mesure soit enlevée. Mais ce qui est vrai, nous plaidons pour que l'État revoie le problème de communication. Parce que l'État congolais ne dispose pas les moyens adéquats pour financer le matériel que les prisonniers vivent. Les zones dans lesquelles cet appareil, ça leur permet d'être en contact avec les familles. Surtout que les prisonniers qui ne sont pas les familles, c'est à Kinshasa. Parce que vous savez, on prend les prisonniers de Katanga, de partout dans la province, on a mis à Kinshasa. Alors, ils utilisent ce téléphone-là pour être en contact avec les familles. Parce qu'il n'y a pas un centre de cabine de téléphonique en prison comme en Andolo pour que des gens soient être en contact avec les parents. Même pour mettre les propriétés en prison, ce sont les prisonniers qui font la cotisation. Donc, je vous dis que l'État n'a pas les moyens de son action. 80% des prisonniers, ils ne mangent pas les nourritures qu'on prépare en prison.
En perspective d'un mouvement de grève évité hier lundi à la prison centrale de Makala, les nouvelles autorités pénitentiaires ont engagé un dialogue avec le personnel pénitentiaire en vue d'assouplir certaines mesures, dont les restrictions relatives à la pratique de petit commerce à l'intérieur de la prison. La situation est bien calme à Makala avec une bonne entente de tous les agents, selon ces autorités. En ce qui concerne les téléphones ravis aux détenus au cours d'un briefing hier avec le ministre de la Communication et Médias, le ministre d'État et ministre de la Justice a rappelé la stricte application de la loi pénitentiaire interdisant à tout détenu de posséder un téléphone, un réchaud et un couteau, ce qui constituerait un danger à la sécurité pénitentiaire d'après Constant Mutamba. 12 corps sans vie de personnes tuées par de présumés ADF ont été découverts samedi et dimanche dans la forêt aux environs des villages de Bwanasura et Otmaber dans le sud du territoire du Rumu. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Les activistes donc de droits de l'homme plaident pour l'intensification des opérations conjointes FARDC armée ougandaise dans cette zone où les ADF multiplient les exactions contre la population. Martial Kiza Biamungu pour les détails.
Quatre premiers corps ont été découverts le samedi soir aux alentours du village de Bwanasura, en pleine forêt dense par des jeunes volontaires. Selon des activistes du droit humain dans la zone, les victimes ont été tuées par des hommes armés identifiés aux rebelles des ADF. Dimanche, 8 autres corps sans vie ont été retrouvés vers Otumaber dans les groupements Banavilemba. Les victimes, composées essentiellement des retournés de guerre, ont été surprises dans leur champ par des hommes armés. Leurs corps, qui étaient des déjà en état de décomposition avancée, ont été enterrés au lieu du drame. L'ONG Convention pour le respect des droits humains, CRDH, demande au gouvernement de prendre ses responsabilités pour mettre fin aux tueries des civils qui se sont intensifiées depuis le début de cette année 2025 dans la région. Son coordonnateur Christophe Mouniaderou ajoute que ces exactions des ADF ont découragé de nouveaux déplacés qui s'apprêtaient à retourner dans leur village d'origine où une accalmie était observée depuis plusieurs mois. Nous n'avons pas réussi à joindre les porte-parole de l'opération Usuja contre les ADF sur l'axe Komandaluna à Sisigi. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, des violents combats opposent l'armée congolaise et ses alliés aux rebelles du M23 sur au moins deux fronts ces mardis dans les territoires de Masisi. C'est notamment autour des Ngungu, groupement Ufamandu 1er, et autour de Sake, groupement Kamuronza. Si au niveau de Sake, l'intensification des combats a baissé, dans la matinée, des détonations d'armes lourdes se sont poursuivies toute la matinée autour de Ngungu, Bernard Nyangi.
C'est depuis 4 heures du matin ce mardi que les positions des FARDC ont été ciblées par des tirs de mortier lancés par les rebelles du M23 depuis la colline de Kiouli et trois antennes surplombant Kimoka à Sake. L'échange des tirs qui s'en est suivi n'a duré qu'à peine 2 heures, indiquent nos sources. Certains habitants de Sake qui commençaient à fuir le milieu ont regagné la cité quelques heures après. Cette attaque rebelle autour de Sake intervient après un échange de tirs dans la soirée entre 17h et 18h locales. Hier lundi, opposant deux factions du groupe Ouazalendo causant des morts dans les deux camps. Celle-ci se serait disputée la gestion des barrières de perception des taxes illégales sur l'axe Kimoka-Kichanga, indiquent nos sources. Par ailleurs, une offensive est lancée par l'armée congolaise pour tenter de déloger le M23 de Ngungu, groupement au fomento du premier, et ce mardi au troisième jour. Des détonations d'armes lourdes et légères y sont toujours entendues, et selon plusieurs sources, l'armée congolaise et les Ouazalendo auraient déjà repris le contrôle de plusieurs villages autour de Ngungu. C'est entre autres Kataandwa, Ruzirantaka et leurs environs, indiquent nos sources. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
En lien avec les combats au Nord Kivu, au moins 4 civils, dont un enfant et une femme, ont été tués et d'autres blessés ce mardi matin dans l'explosion d'un obus à sac et précisément dans le quartier Birere 2. Selon des sources locales, vers 10h, un obus supposément largué par le rebelle du M23 depuis la colline Kiouli surplombant Saké a atterri sur une maison près d'une église locale. L'explosion est survenue alors qu'une accalmie s'installait dans la cité après des affrontements entre 4h et 6h du matin entre l'armée congolaise et le rebelle du M23 près de Saké. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO, condamne avec la plus grande fermeté l'offensive récente menée par le mouvement M23 le 2 janvier en cours notamment à Masisi dans la province du Nord Kivu. Dans un communiqué de presse publié ce mardi à Kinshasa, Madame Bintou Keïta indique que cette attaque tragique a causé la mort d'au moins 7 civils et entraîné le déplacement de dizaines de milliers de personnes, exacerbant ainsi la crise humanitaire déjà sévère dans l'est de la RDC. Grâce à Mzati.
À en croire la chef de la MONUSCO, le M23, qui selon le groupe d'experts des Nations Unies est soutenu par des forces extérieures d'un État voisin, a violé l'accord de cessez-le-feu signé le 30 juillet 2024 entre la RDC et le Rwanda. Au 4 janvier, le M23 a pris le contrôle de la cité de Masisi, centre administratif du territoire du même nom. Madame Bintou Keïta insiste sur l'importance du respect de l'intégrité territoriale de la RDC en réitérant l'engagement ferme de l'Organisation des Nations Unies à soutenir ses principes fondamentaux. Cette escalade de violence qui affecte cruellement les populations civiles constitue un tournant tragique en ces débuts d'année 2025 et doit cesser immédiatement, déclare Madame Bintou Keïta. J'exprime mes plus sincères condoléances aux familles des victimes de ces atrocités. Je déplore la reprise des offensives militaires au Nord Kivu et appelle toutes les parties à soutenir pleinement le processus de paix de Luanda en cours sous l'égide du président João Lourenço, ajoute-t-elle. Ainsi, elle réaffirme l'engagement inébranlable de la MONUSCO à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en RDC et appelle toutes les parties prenantes à œuvrer de manière constructive pour mettre fin aux violences et parvenir à une solution pacifique et durable au conflit dans la région.
Pour boucler ce chapitre sécuritaire, plusieurs habitants fuyant la guerre dans les territoires de Masisi au Nord Kivu affluent à Minova et vers les hauts plateaux des Numbi dans les territoires de Calais au Sud Kivu pour se mettre à l'abri. Cette arrivée massive de population nécessite un droit de regard humanitaire, plaide l'administrateur de territoire assistant qui revient d'une mission d'itinérance dans la région. Archimède Kaebois fait un état des lieux des déplacés. Ses propos ont été recueillis par Jean Kassami.
Nous avons connu un afflux de déplacés. Si vous arrivez à Minova à 7h, vous allez rencontrer des blessés touchés par ces combats intensifiés de la fois passée. Nous les avons accueillis dans les conditions précaires. Nous avons connu une augmentation des déplacés, ce qui ne les met pas dans les bonnes conditions de vie. Les familles de Minova ont compris qu'il fallait, n'est-ce pas, cette volonté-là d'accueillir les autres quand ils arrivent, en attendant que les réunions seront organisées urgentement avec les clusters sécurité, abri, les HACR, le PAM, toutes les organisations pour résoudre cette question. Ce n'est pas dans l'axe Minova seulement qu'on peut rencontrer les déplacés. Il y a des déplacés du côté de Numbi, Kavumo. Vous rencontrerez des déplacés qui vivent dans les familles d'accueil. On ne peut pas savoir donner les statistiques parce qu'ils ont des mouvements d'aller-retour chaque jour.
Au Kasaï oriental, un calme précaire règne dans la colline des Bakwa Masela, territoire de Katanda, après les affrontements dimanche dernier entre les forces de l'ordre et les habitants du groupement de Bena Mwebia. Qu'en est-il de ce vieux conflit foncier dans les territoires de Katanda? Explication externe à la fina.
Le conflit dans le territoire de Katanda oppose trois groupements. Il s'agit des groupements de Bena Mwembia, de Bena Shimba et de Bena Kapuya dans les secteurs de Baluba-Lubilanji. D'après certaines sources de la société civile, ces conflits tournent premièrement autour des terres arables et deuxièmement autour de la découverte du gisement de calcaire à Simon dans ce territoire. Un ancien rapport de la MONUSCO Mbujimayi, élaboré après une mission de pacification dans la région avec les membres de la société civile, indique que c'est vers les années 1910 que les habitants du groupement de Bena Shimba se réclament propriétaires des terres après avoir accueilli chez eux les habitants du groupement de Bena Kapuya d'abord et ensuite ceux de Bena Mwembia en détresse. D'autres sources par contre affirment que les terres occupées par les habitants du groupement de Bena Kapuya et de Bena Mwembia contiennent des gisements de calcaire pour la fabrication des ciments. Les Bena Shimba estiment que les habitants de ces deux groupements jouissent de terres en faisant des cultures pérennes et non des palmeraies et des droits de propriété. Des centaines de morts ont déjà été enregistrées, mais aucun arbitrage n'a donné une issue heureuse. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, est décédé à Garches, en région parisienne, dans un établissement où il avait été admis il y a plusieurs semaines, a fait savoir sa famille à l'AFP ce mardi 7 janvier. Un communiqué de sa famille a indiqué qu'il était entouré de siens. Jean-Marie Le Pen avait cédé la présidence du Front National en 2011 à sa fille Marine et avait été exclu du parti en août 2015, officiellement à cause de ses prises de position sur le régime de Vichy et sur la Shoah. Il en était resté président d'honneur jusqu'en mars 2018.
L'invité.
À Goma, le Centre pour handicapés physiques Chirika, la Umoja de Goma, a célébré l'année dernière ses 60 ans de service à la communauté, créé le 15 septembre 1964. Ce service de l'Église catholique, géré par la Congrégation des Frères de la Charité, accompagne en moyenne 2000 personnes chaque année. À l'occasion de cet anniversaire, nous recevons Monsieur Sylvain Siahava, administrateur de ces centres, pour nous parler de services offerts par cette œuvre du diocèse de Goma. Il est accueilli par Rosalie Zawadi.
Monsieur Sylvain Siahava, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Vous avez récemment organisé une matinée porte ouverte pour montrer à la population les services que les centres pour handicapés physiques Chirika la Umoja rend à la communauté. Quels sont ces services?
Les services qui sont organisés ici, comme vous le savez, nous sommes un centre spécialisé dans les domaines de la rééducation physique à travers deux grands services. Les services de kinésithérapie, mais aussi les services d'appareillage orthopédique. Aux côtés de ces deux grands services, nous avons des services connexes, la logistique et l'administration, qui essayent de mettre tout en musique pour que ça fonctionne. Mais les gros, c'est les services, les soins de kinésithérapie et l'appareillage orthopédique aux personnes handicapées. Alors, les soins de kinésithérapie qui est subdivisé en plusieurs unités, nous avons un pavillon spécialisé pour les soins des enfants infirmes moteurs cérébraux. Nous avons un pavillon dédié aux soins des patients paraplégiques, ceux-là qui sont paralysés des membres supérieurs ou inférieurs. Et nous avons aussi un service de kiné qui s'occupe de la rééducation à la marche, qui travaille en collaboration avec l'appareillage orthopédique.
Et c'est depuis 60 ans que le centre est opérationnel. Comment ont évolué les services que vous offrez?
Au départ, à la création, cela a commencé par une école d'apprentissage des métiers aux personnes handicapées qui circulait dans la ville de Goma. Et par après, aussi avec un service minimum de soins de kinésithérapie. Au fil des années, le centre a pris des dimensions importantes au sein de la communauté jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui.
Comment vous assistez les enfants?
Plusieurs techniques sont utilisées dans ce domaine-là pour pouvoir récupérer ce qui peut l'être auprès de ces enfants qui sont touchés de l'infirmité motrice cérébrale. entre autres techniques, ils appliquent la stimulation précoce pour essayer de stimuler certains aspects de pour que les enfants reprennent un peu leur motricité aux côtés de d'autres séances de soins de kinésithérapie que les kinésithérapeutes essayent de donner aux enfants.
Le centre est opérationnel à Goma, mais vous recevez les patients de quel milieu?
Le rayon d'action du centre, il est vaste. Je parlerai de l'est de la RDC parce que nous avons des patients qui nous viennent de Kisangani, nous avons des patients qui nous viennent de Butembo, nous avons des patients qui nous viennent de Kindu, parce qu'il faut dire, partout là-bas il y a des centres, mais l'ampleur de ces centres n'est pas les mêmes que ces centres qui sont situés dans ces milieux. Mais nous avons des patients qui nous viennent aussi de villes et provinces voisines de la RDC, telles que Gisenyi et d'autres provinces du Rwanda.
En moyenne, combien de personnes fréquentent les centres chaque année?
Chaque année, au terme des services que nous rendons aux bénéficiaires, plus de 2000 bénéficiaires sont reçus ici chez nous en consultation et divers domaines de prise en charge.
Et à quels défis vous faites face dans ce travail en faveur de la communauté?
Les défis sont majeurs. Ce centre spécialisé comme celui-ci, pour fonctionner, il a besoin de consommables. Et les marchés en termes de consommables, nous devons importer tout ce que nous mettons en contribution pour rendre service à la communauté. Notre rayon d'action, il est limité actuellement à cause de toutes ces violences récurrentes et ces guerres à répétition. Ça fait que nous avons des bénéficiaires à qui nous ne savons pas rendre service parce qu'ils sont bloqués dans les axes à l'intérieur de la province. Et un autre défi, c'est la vulnérabilité de la communauté qui nous fréquente. Elle est touchée par ces guerres à répétition et la situation économique du pays que vous connaissez. Et donc, nos revenus au niveau de la mobilisation au niveau local sont faibles, alors que les besoins pour la prise en charge des bénéficiaires deviennent de plus en plus importants.
Et parce que nous sommes au début de l'année, quelles sont vos perspectives pour cette année nouvelle?
Nous pensons, au courant de cette année, et continuer comme les autres années, à intensifier notre programme de plaidoyer auprès de nos autorités pour voir dans la mesure du possible comment ils peuvent accompagner ces centres en termes de soutien de divers ordres. Nous pensons également continuer la sensibilisation de la communauté par rapport à la prise en charge des vulnérables et autres personnes handicapées dans notre communauté. Nous pensons aussi intensifier notre service auprès de la communauté tout en améliorant davantage avec autant de formations internes pour améliorer la qualité et la prestation de nos bénéficiaires de services.
Monsieur Sylvain Siahava, je rappelle que vous êtes l'administrateur du Centre pour handicapés physiques à Chirikala Umoja de Goma. Merci.
Merci, madame la journaliste.
Ainsi s'achève ce journal sur Radio Okapi. Gisèle Kajet à la présentation, mise en onde Polydor Basunga, coordination Alain Irungé, Élisée Chikota. Rendez-vous à 16h pour une autre session d'information.